pris en réunion de conseil, on le prie régulièrement, avec Corbel, c'est souvent notre prière, c'est toi le berger. Et quand j'ai vu comment se préparait ce culte par rapport à ce message d'aujourd'hui, je me suis dit, c'est vraiment toi qui as toutes les choses en moi. J'avais à cœur que nous puissions prendre un texte dans
Luc, au chapitre 19, au chapitre 1, c'est l'histoire de Zachée. On connaît tous cette histoire, mais j'avais à cœur qu'on puisse, pendant ce trimestre où on parlait d'évangélisation, ben qu'on voit comment Jésus a fait. Comment ça s'est passé pour Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire le texte de Luc sur Zachée, donc du verset 1 au verset 10. On va dire ensemble si vous voulez. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, qui cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Voilà. Si vous êtes, peut-être que si vous avez fait l'école du dimanche, vous avez fait des dessins et on vous a fait des sketchs sur Zachée, parce que c'est connu, le sycomore. Mais je pense que nous avons beaucoup à apprendre de cette histoire. Voici cet homme, Zachée. Et on constate qu'il a plusieurs caractéristiques, et Luc va lui donner plusieurs caractéristiques. Riche, chef des péagers ou des publicains et petit. On se demande pourquoi on précise ces trois points. Mais pour Luc, il est important de préciser cela pour l'évangéliste. Il est important de préciser parce que ça fait partie de son identité ou de sa fausse identité, en tout cas. Chef publicain, ça veut dire qu'il a un poste important, un poste politique, un poste économique, un poste un peu de corruption, faut dire les choses comme elles sont. Il représente dans la ville de Jéricho, qui est une grande ville, le pouvoir, les gens qui sont en collaboration avec les Romains et qui a l'oreille et les yeux des Romains. C'est pas n'importe qui. Ils doivent fréquenter les légionnaires, le centurion, les responsables de la garnison de Jéricho. Voilà. C'est un peu le maréchal Pétain de Jéricho. Ah oui, quand on réfléchit bien. Donc c'est quelqu'un d'important. Il est riche. Est-ce que c'est parce qu'il est riche qu'il s'est associé avec le pouvoir romain pour conserver ses biens? Ou c'est parce qu'il s'est associé avec le pouvoir qu'il est devenu riche? Ça peut être les deux, en général. L'un amène l'autre. C'est pas un ami des pharisiens. C'est pas un ami des juifs pieux. C'est pas un ami des pauvres. C'est quelqu'un qui est pas apprécié dans sa ville. Ça fait penser à l'histoire de Matthieu, qui était déjà péager et que Jésus avait rencontré. Et puis, il y a un autre point qu'on dit, il est petit. Ça m'a intéressé parce que, et déjà là, ça peut nous parler à nous, à chacun d'entre nous. Alors petit, pour l'époque, c'est vraiment petit, parce qu'on n'était déjà pas très grand à l'époque. Donc est-ce que ça fait 1m40, 1m50? C'était vraiment petite personne. Est-ce que c'est parce qu'il était petit qu'il avait une revanche sur la vie à faire? On ne sait rien, le texte ne le dit pas, on peut imaginer. Est-ce que c'est parce que est-ce qu'il était moqué et qu'il a voulu prendre une revanche à sa vie? C'est possible. Ça nous arrive aussi dans notre vie, y compris dans notre enfance. On nous a dit un certain nombre de choses et on veut après démontrer tout le contraire. Et on devient le contraire de ce qu'on nous a accusé de l'être. Ou au contraire, on accepte ces paroles négatives. Qu'est-ce qu'on disait de Zachée quand il avait 10 ans ou 12 ans et qu'il faisait une taille et demie en dessous de ses copains? Comment il était traité? Pas à la cour d'école, mais dans la cour de la synagogue. Comment il était traité? Est-ce que ça avait mis en lui de l'amertume et en disant de toute façon, je ne suis pas accepté, donc tant qu'à ne pas être accepté, vaut mieux que j'aille jusqu'au bout et que je fasse le maximum d'argent en étant l'ami des publics, étant publicain et l'ami des Romains. Mais cet homme n'était pas le bienvenu parmi les disciples. Mais qu'est-ce que Zachée, dans ces conditions-là, vient faire avec Jésus? Jésus qui est fils de charpentier, qui n'a pas d'argent, même pas à voler, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que Zachée vient faire? Il vient-il voir un troubleur? Est-ce qu'il est en train de faire une enquête pour les Romains? Est-ce que, au fond de lui-même, il se dit « tout le monde en parle ». Est-ce que qui est-il? Est-il un prophète? Est-il Élie? Est-il le Messie? Il cherche à le voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des fois nos motivations pour quand on a rencontré le Seigneur étaient peut-être un peu étonnantes, comme celle de Zachée. Mais il y a en tout cas, même s'il ne savait pas qui était Jésus, il savait qu'il y avait quelque chose là qu'il avait envie de connaître. Et même s'il s'est donné des mauvaises raisons, etc., inconsciemment, il cherchait à le voir. Il cherchait à le voir avec une grande impatience, parce qu'il se met à courir, et seulement il se met à courir, il monte sur un arbre, qui montre d'ailleurs l'ingéniosité de Zachée. Il me fait penser un peu à Jacob, moi. Des fois, Zachée, je ne sais pas pourquoi... Parce qu'au niveau caractère, il devait se ressembler. Voilà, on lui ferme une porte, il passe par la fenêtre. Pas du genre à rester des pieds dans le même sabot. Mais là, alors que d'habitude, il avait mis plutôt ses dons à gagner de l'argent, il le fait pour chercher Jésus. Même s'il ne sait pas qui c'est. Mais il se dit au fond de lui-même, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. C'est peut-être le cas quand des gens viendront au festival gospel. Ils ne savent pas trop ce qu'ils viennent. Mais j'ai entendu parler de Jésus. Je veux le voir. Il va le voir dans un arbre. Pensez à Nathanaël qui était sous un arbre pour voir Jésus. Est-ce que ce n'était pas aussi parce qu'il voulait se cacher? Qui ne voulait pas être avec les autres? Est-ce que c'était parce qu'il voulait se cacher, parce qu'il était comme Adam et qu'il avait honte? Vous vous rappelez, Adam, il dit « Je me suis caché parce que j'avais peur ». Est-ce qu'il sait qu'il est pécheur? Et en tout cas, il a peur du jugement des autres, des disciples. Il a peur de ce jugement. En tout cas, il monte dans un arbre. On ne peut pas tout répondre à toutes les questions, mais on sait qu'il monte sur un arbre. Il y a une réflexion que ça m'a donnée en parenthèse. Parce que dans le texte, il est dit, la foule l'empêchait de le voir, Jésus. Et ma prière, c'est que je ne voudrais pas qu'un jour nous soyons des empêcheurs de voir Jésus. Que nous, les bons disciples, on empêche Jésus, on empêche les gens de voir Jésus. Ça serait dommage. Et là, c'est un peu le cas. Il y avait toute la foule, des disciples, les amis, les gens qu'ils connaissaient. Ils étaient joyeux, contents, ils entourent Jésus, ils sont autour de Jésus, c'est les amis de Jésus. Mais Zachée n'est pas venu pour voir les amis de Jésus. Il n'est pas venu pour voir les gens qui chantent Jésus. Il est venu voir Jésus. Alors j'espère en tout cas, et ma prière, pour moi en tout cas, c'est que je ne sois jamais quelqu'un qui empêche de voir Jésus. Que je sois entre les hommes et Jésus. Ça nécessite pour chacun d'entre nous de l'humilité et de savoir regarder, de savoir écouter, de savoir se mettre en retrait de temps en temps pour laisser Jésus. Ben voilà, il est donc sur son arbre, Jésus arrive, et là Jésus fait une chose tout à fait étonnante, il lève les yeux. La seconde fois dans la Bible, dans l'évangile, on voit Jésus lever les yeux, c'est pour la veuve. Il lève les yeux. Il lève les yeux vers Zachée. Et là, il se regarde. Il le voit. Je n'ai pas eu la chance de regarder de cette manière-là Jésus. Il y a un livre et un film. Je rigole parce que vous allez me dire, ah tiens, ça y est, il a sorti encore une scène de film. Mais c'est un livre à la base. C'est Bénure. C'est un très joli livre et je vous encourage à l'offrir à compris pour vos petits-enfants, un livre évangélique des années 20. Et en tout cas, dans le livre, il y a Bénure, et si vous avez vu le film aussi, qui est prisonnier, et puis qui se retrouve dans le désert, et puis quelqu'un lui donne à boire, et il voit le regard de Jésus. Et pendant tout le livre, il va vivre des choses terribles, il dit, je suis poursuivi par ce regard, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu quelqu'un, et il a transpercé mon cœur. Et là, c'est pareil. C'est un moment d'éternité, c'est un moment unique. Il le voit. Il le voit. Et non seulement il le voit, mais il l'appelle Zachée. Est-ce qu'il est espion, Jésus ? Est-ce qu'il est maître espion ? Est-ce qu'il avait des indicateurs à Jéricho ? Est-ce qu'on lui avait fait des fiches sur les gens importants ? Les gens qu'il fallait rencontrer ? Est-ce qu'il avait des... Mais ça, il faut que je le rencontre, parce que c'est une personnalité clé de la ville de Nîmes, je veux dire, de Jéricho ? Non. Il va voir Zachée. Il voit Zachée. Il l'annonce, il l'appelle par son prénom, par son nom. Il reconnaît, parce qu'il connaît toutes choses, comme il connaît chacun de notre prénom. Il est écrit dans Ésaïe, « Ne crains pas, je te connais par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43. « Je te connais par ton prénom, par ton nom, tu es à moi. » En prononçant le mot Zachée, il lui reconnaît. Il n'est plus le péager. Il n'est plus le chef des publicains. Il n'est plus le petit, le nabo ou quoi que ce soit. Il est Zachée. Et savez ce que ça veut dire Zachée en hébreu ? Ah, ça c'est quand même étonnant. Enfin c'est étonnant, non. Le Seigneur purifie. Wow. Le Seigneur purifie. C'est beau. Il lui redonne sa vraie identité. Son identité, ce n'est pas ce que la ville a fait de lui. Ce n'est pas son péché qui l'identifie. Et il y a eu beaucoup de paroles qui ont été dites tout à l'heure sur ce voile de tristesse. Sur ce... C'est pas mon péché qui m'identifie, qui fait que qui je suis. C'est Jésus, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Zachée. Nous sommes tous des Zachées, mes amis, ce matin. Parce que nous sommes tous sauvés et purifiés par Jésus. Par celui qui sauve, par Yeshua. Zachée. Voilà, je ne vais pas le faire en hébreu, mais j'assais, celui qui est purifié par le Seigneur, j'ai choix, le Seigneur qui sauve. Sachez, en appelant Zachée. Il l'appelle et lui donne sa véritable identité. Il n'est plus Adam caché, mais il est un enfant du Seigneur. Il est même plus, il va le dire après. Et c'est le plus beau compliment, le plus beau identité qu'il pouvait donner à Zachée. Il lui dit, c'est le fils d'Abraham. Waouh! Il appelle Zachée le fils d'Abraham. Pour l'époque, appeler un publicain, un paria, un traître, un collabo, le fils d'Abraham, il lui redonne, il dit, tout ce que tu as fait dans ta vie, quoi que tu as fait, ne change rien au regard que Dieu a posé sur toi. Et c'est vrai pour Zachée, c'est vrai pour chacun d'entre nous ce matin. C'est vrai que si vous êtes là pour la première fois, comme si vous êtes là depuis 30 ans. Je pensais à une chose, la bonne nouvelle, c'est tous les jours, tous les matins que j'en ai besoin. Je n'en ai pas besoin une fois dans ma vie. C'est tous les matins que j'ai besoin de la bonne nouvelle que Dieu m'aime, que Dieu m'a gracié, qui m'a sauvé, qui m'a purifié, qui m'a donné son amour. Tous les matins, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Pas vous ? J'ai besoin de cette bonne nouvelle. Nous sommes tous désachés. Nous sommes tous purifiés. Et il lui dit autre chose. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Là aussi, c'est toujours, et puis on va rester sur ce point. Jésus, qui peut être calme, tranquille, posé, par moments, il dit, vous le remarquerez, il dit, c'est maintenant, c'est tout de suite, n'attends pas, c'est pas demain. La décision que tu dois prendre, c'est pas pour demain, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passera demain? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir de ce culte? S'il y a une décision à prendre dans ta vie, c'est maintenant que tu dois la prendre, c'est pas demain. Hâte-toi. Trop souvent, on dit, oh, mais j'ai le temps. Qui vous dit que vous avez le temps? Le temps est court, dit la parole. Hâte-toi. Je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous, nous, les Zachée, et c'était la prophétie et les chants tout à l'heure. Dieu vous nous propose, nous dit, je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui. Ouvre la porte, je veux entrer dans ta maison. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à ouvrir notre porte pour que Jésus entre dans notre maison? Est-ce que vous vous rendez compte du privilège? Parce qu'on chante ça. Mais pour Zachée, remettez-vous dans la situation de Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est pas extraordinaire? Est-ce que vous n'êtes pas prêt de vivre cette aventure et à ouvrir votre maison à ce que Jésus soit pleinement dans votre maison? Zachée ne s'est pas posé la question de savoir dans quel état était sa maison. Maison de publicain. Qui fréquentait cette maison? On verra après qu'effectivement ça a créé des soucis à d'autres. Il ne s'est pas posé la question de savoir si c'était rangé, pas rangé. Dans quel état? Il n'est plus le pécheur, il est Zachée. Celui qui est purifié. Ah, si on est purifié, c'est qu'on a besoin d'être purifié. Et il veut dire à la fin, je suis venu pour ceux qui étaient perdus. Donc il ne se pose pas la question, non, je ne suis pas digne, tu ne peux pas rentrer là, cette maison, il y a des choses qui ne sont pas bien, je ne veux pas que tu vois ça, je ne veux pas que tu vois ça. Comme si on avait des choses à cacher, comme si nous étions encore dans le jardin à nous cacher de Dieu et avoir peur. Laissons entrer Jésus dans notre maison. Dans toutes les pièces de notre maison. Pas simplement dans le salon où on a passé l'aspirateur, mais aussi dans les chambres. Hâte-toi. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Là aussi, on a parlé de ça et je voulais terminer sur ce point-là. « Je n'avais pas l'intention de trop en parler, de prêcher sur les murmures, sur les pharisiens. Je dis, on va être sympa, on ne va pas critiquer qui que ce soit, donc on ne va pas parler des pharisiens. On va se concentrer sur la joie de Zachée. Notre joie, ma joie. Oui, je suis pécheur. Oui, je suis sauvé. Et Jésus me connaît par mon prénom. Et il me dit, et il te dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. D'ailleurs, on ne va pas faire il faut, vous le reverrez souvent dans la parole de Jésus. Et c'est toujours lorsque Jésus exprime l'ardente obligation, la mission pour laquelle il est sur terre. Il faut que je fasse la volonté de mon Père. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut que... ça le dépasse même, Jésus. C'est parce qu'il est poussé par l'amour de son Père. Non seulement il le fait parce qu'il l'aime, mais il est poussé par l'Esprit Saint, parce que c'est le désir du Père, du Fils, du Saint-Esprit de pénétrer en nous, de nous réconcilier, et que le Père se réconcilie avec chacun d'entre nous. Il faut que je demeure, dit Jésus. C'est optionnel. Si tu veux, si tu as le temps, on peut manger ensemble. Il faut. Ça l'étreint. Est-ce que nous sommes capables là aussi d'être dans ce sentiment et justement d'annoncer l'évangile? Il faut que je l'annonce. Il faut que je mange avec toi. Il faut que je te rencontre. C'est pas parce que j'ai envie, mais ça vient de mes tripes et j'ai besoin de partager ça avec toi. Tu vois, ça m'arrive et j'essaye de suivre ce que le Seigneur me dit, y compris quand j'ai la conviction que je dois rencontrer quelqu'un dans l'église ou hors de l'église et que je suis poussé à le faire. Et le reçu avec joie. La parole de Dieu nous dit que l'un des premiers fruits de l'Esprit, peut-être la chose la plus importante, c'est la joie. Et que la conversion, la rencontre, amène de la joie dans le ciel. Je suis convaincu profondément que le ciel, c'est un lieu de joie permanent. Et que lorsque nous sommes sur cette terre et que nous sommes ici, il y a une joie spirituelle qui n'a rien à voir avec une joie artificielle, mais qui est profonde. Et lorsqu'on a commencé à goûter à cette joie, on ne peut plus l'oublier. Et je vous encourage vraiment, au-delà des circonstances, parce qu'on dit, mais je ne peux pas être joyeux parce qu'il y a ceci, il y a cela. Ça ne vient vraiment pas des événements. Mais recevez cette joie spirituelle ce matin. Recevons cette joie spirituelle. Et je pense vraiment que le Seigneur, à travers tout ce qu'il a dit dans ce culte, depuis ce matin, enfin depuis 2 heures, s'il y a une chose qu'il veut vous dire, reçois la joie de Dieu. Reçois la joie de Jésus. Si vous n'êtes pas convaincu, après, parce que le texte, il est écrit, je ne l'ai pas inventé, que le Seigneur veut vous parler ce matin sur la joie, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je suis convaincu que le Seigneur a une parole pour toute l'assemblée, d'ôter la tristesse. Et c'est pas, non, laisse entrer Jésus. Laisse la joie de Jésus entrer en toi. Laisse faire. Tu n'as rien à faire. Tu es toujours en train de chercher à faire quelque chose. Arrête de monter dans les arbres. Arrête de faire des trucs. Laisse la joie entrer. Et fais-le. Reçois. Ouvre la porte. Parce que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré dans ta maison. La bonne nouvelle est entrée dans ta maison. Parce qu'il est entré dans la maison de chacun d'entre nous. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que ce n'est pas à peine que je vous parle de Zachée plus. C'est de vous qu'il faut parler. C'est de nous qui est important de prendre ce temps. Donc on va prendre un temps de prière, on va prendre la Sainte-Seine, on va prendre ce temps de prière. on va vraiment laisser, y compris peut-être dans le silence, même si elle sonne aux marches, et elle marche maintenant, mais on va laisser la joie de Dieu. Alors je vous propose déjà que nous puissions fermer les yeux. Je vais demander aux personnes qui ont été désignées pour la Sainte Cène de s'avancer. Et on va prier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, je te rends grâce, parce que ce matin, tu veux nous rencontrer. Et tu nous as appelés par notre prénom. Tu nous as appelés Zachée, mais tu nous as appelés aussi François, Philippe, Jocelyne ou Myriam. Tu veux nous rencontrer parce que tu ne veux pas arrêter là avec nous. Et tu ne veux que dans ce temps de silence, toi tu poses ton regard sur chacun d'entre nous. Et Jésus, tu poses maintenant le regard sur chacun d'entre nous, sur chaque personne dans l'assemblée. Et tu nous dis à chacun, tu es haché. Celui qui est purifié, tu es purifié par mon sang, tu es purifié par le sacrifice à la croix. J'ai hâte de demeurer en toi ce matin. J'ai hâte de venir en toi. J'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte de déverser ma joie sur toi et en toi, gratuitement. Descends de ton arbre, descends de ta cachette, descends au monde de ton trou, où tu étais, sors et viens avec moi. Nous avons un rendez-vous divin ce matin. Tu as un rendez-vous divin, personnel, individuel, intime, où Jésus a des choses personnelles qu'il n'a à dire qu'à toi, seul à seul. Mais il veut maintenant te rencontrer. Merci Seigneur, parce que ta puissance, ton Esprit Saint, tout simplement agit en cet instant. Amen. À la louange. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire comme introduction, mais Seigneur, bénis ce repas et que nous puissions vraiment le recevoir par la foi. Amen.
Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.
J'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu veux sauver, Seigneur. Merci parce que tu veux bénir. J'aimerais inviter à toutes les personnes qui ont été touchées par les paroles qui ont été dites, de paroles de bénédiction et de guérison, pour qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse vraiment affirmer, Seigneur, devant Dieu, que sa bénédiction sur vous. Voilà, pour tous ceux qui sont touchés par ces paroles de guérison du genou, tout ce que mon frère a dit aussi, de l'épaule, qu'ils puissent avancer. Et je veux demander aux anciens de s'approcher pour prier pour eux. Amen. Amen. Seigneur, nous aimerons associer aussi dans nos prières tous les personnes qui sont malades, Seigneur, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. C'est en te demandant ta bénédiction, ta guérison, Seigneur. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Nous pensons particulièrement à Axel, Seigneur, qui est malade, qui est hospitalisé, Seigneur, pour que ta grâce le touche, Seigneur, pour que ta grâce le bénisse, Seigneur. Nous bénissons vraiment tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Que ta grâce descende, Seigneur. Tu les touches maintenant. Amen, Jésus.
Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire. Je t'adore.